Chapitre 23. Tendresse réciproque. Jeannette, son petit paquet sous le bras, ses papiers dans son portefeuille, mais le cœur serré, l'œil humide de larmes, s'en alla d'abord sans s'arrêter jusqu'à Versailles, où elle se reposa quelques moments. De là, elle fut dîner à Trappes et coucher à Rambouillet. C'était avoir considérablement marché pour une femme. Pendant la nuit, elle ne put dormir. Elle pensa sans cesse à sa chère Cécile, qui, de son côté, sans doute, ne pouvait goûter de repos. Et Jeannette, aussi éloignée d'elle que si elle en eût été séparée par l'immensité des mers, eut du regret d'avoir quitté cette sensible amie. Jeannette n'avait jamais connu l'amour, mais elle plaignait ce que cette funeste passion dominait. Cécile, loin de son amant, de son petit Charles et de Jeannette, lui parut être parvenue au comble de l'infortune. Jeannette se repentit de l'avoir laissée seule à sa douleur et peu s'en fallut qu'elle ne projetât de revenir le lendemain à Paris, mais elle réfléchit bientôt au but de son voyage. Et sentant combien des changements dans sa fortune et dans sa situation seraient intéressants pour son amie, elle se raffermit davantage dans son projet. Jeannette était bonne et même timide, mais elle avait beaucoup de caractère, et quand elle avait formé une entreprise, rien ne pouvait l'empêcher de l'exécuter. Fermeté, constance, prudence et patience, elle réunissait tout pour arriver à son but, et l'on verra par la suite qu'elle savait entreprendre et réussir. Jeannette, sans avoir dormi, vit paraître le jour et se remit en route. Elle passa successivement Épernon, Maintenon, et vers le soir enfin, elle se trouva à une lieue de Chartres, dont les hauts clochers fixèrent de loin ses regards. Il lui fallait trouver la masure de Jacques, et aucune chaumière ne frappait son œil attentif. Cependant, elle aperçut dans un fond, à un quart de lieue de la route, une petite cabane rustique vers laquelle elle dirigea soudain ses pas. Le jour était sur son déclin, et si Jeannette s'était malheureusement trompée, il aurait fallu qu'elle fît une grande lieue dans ce site désert avant d'arriver à la ville. Jeannette frappe à la porte basse de ce manoir isolé. Une voix de femme lui répond « On ouvre ». « Est-ce ici, lui dit Jeannette, la demeure de Jacques le cultivateur ?»« Jacques, ma bonne dame, il y a longtemps qu'il est mort. C'est moi qui lui ai succédé. Si vous avez besoin de quelque chose... » Jacques est mort? Et Thérèse, sa fille? Thérèse? Ah, pardi, Thérèse, est-ce que je connais ça, moi? Ces affaires ne me regardent pas. Si elle vous doit, tant pis pour vous, car ça doit à tout le monde. Et cependant, je lui ai bien payé cette chaumière pour ce que ça est. Un trou, comme vous voyez, il n'y a pas de quoi s'y retourner. Thérèse n'est donc plus dans ce pays? Je ne sais où elle est et je ne m'en informe pas. Pardi, j'ai bien autre chose à penser. C'est là tout ce que vous voulez? Madame, il fait presque nuit, il n'y a pas d'auberge aux environs? Pas une seule. Bonsoir. Mais s'il faut que j'aille jusqu'à Chartres? Pardi, il y a loin, n'est-ce pas, une petite lieue. Et puis, cette plaine est sûre. N'ayez pas peur, on ne vous y enlèvera pas. Bonsoir. Jeannette, choquée de l'impertinence de cette femme, la quitta, l'âme triste et la larme à l'œil. Elle était seule et sans espoir de découvrir le mystère qui était le but de son voyage. Jacques n'existait plus et elle ignorait l'asile de sa fille. Qu'allait-elle devenir? Quel parti devait-elle prendre? Celui d'aller au moins passer la nuit à Chartres. Elle s'y détermina et se mit en route avec autant de courage que de résignation. Il était nuit lorsqu'elle arriva dans cette grande ville dont on allait fermer les portes. Jeannette prit la première rue qui s'offrit à elle et se trouva dans la rue de la Visitation. Vis-à-vis le couvent, une femme du peuple tomba par maladresse et pensa l'entraîner dans sa chute. Jeannette s'empresse d'aider cette personne à se relever et la femme, la remerciant avec sensibilité, lui témoigna le regret de ne pouvoir rien faire pour l'obliger. « Pardonnez-moi, ma bonne, lui répondit Jeannette, vous pouvez me rendre un grand service, car je suis étrangère dans cette ville et je voudrais trouver un asile où une femme pût passer décemment la nuit. Venez chez moi, madame, mon mari sera charmé de vous recevoir après la manière honnête dont vous m'avez secourue. Je demeure là, Mon mari, Bernard, est compagnon menuisier, et moi, je vends des fruits, des légumes, toutes sortes de petites choses pour subsister. Nous avons une chambre à deux lits, vous voudrez bien en accepter un. » Jeannette fut sensible à l'offre obligeante de la jeune Bernard. Elle entra chez elle, fut enchantée de l'honnêteté de son mari, jeune encore, et qui berçait sur ses genoux un enfant âgé au plus de 4 à 5 mois. On servit un souper frugal et Jeannette raconta à ses hôtes le peu de succès qu'elle avait obtenu dans la recherche de Jacques et sa fille Thérèse. À peine eut-elle prononcé ces noms que la femme Bernard s'écria « Quoi, c'est Thérèse que vous cherchez, madame ? Eh, vous la voyez, c'est moi qui suis la fille de ce bon Jacques et que j'ai perdue il y a 18 mois. » Forcée par des malheurs à vendre ma chaumière à une femme jalouse et méchante, je me suis mariée depuis à ce brave homme. Et le ciel, en nous envoyant un enfant, a béni nos travaux et mon petit commerce, qui va bien selon notre ambition et notre manière d'exister. « Et quoi, c'est vous que le ciel me fait rencontrer par hasard ?» s'écrie à son tour Jeannette. « Oh mon Dieu, je te remercie !» Je craignais bien de m'en retourner sans savoir ce que je voulais apprendre. Que désirez-vous ? Avez-vous entendu quelquefois votre père parler d'une pauvre petite Jeannette, abandonnée par son frère, votre oncle, et reléguée aux enfants trouvés, le jour de l'Ascension, il y a 28 ans de cela ? Comment ? Sans doute, et il y a 2 ans qu'une sœur de l'hospice vint nous voir et nous apprendre que cette Jeannette existait. Nous l'attendions à tout moment, elle n'est pas encore venue. Serait-ce vous ? Moi-même. Ah, mon Dieu, Bernard, regarde donc, voilà la fille de M. Déricourt, cet enfant qu'on a tant pleuré, qui était née pour être si heureuse. Ah, mademoiselle, que je suis ravie de vous voir. Votre père n'est plus, mais il vous reste une mère, oh, bien estimable, et qui sera bien contente de vous revoir. Où est-elle, Madame Bernard ? Ah, pardi, à 2 pas d'ici, c'est notre bienfaitrice, c'est elle qui a daigné nous aider de sa bourse au moment de la mort de mon père. C'est elle enfin qui nous a mariés. Quoi, ma mère serait dans cette ville ? À 2 maisons plus bas. Mon Dieu, que vous serez étonnés quand vous la verrez, quand vous apprendrez ses malheurs, ceux de son époux. C'est une femme jeune encore, 48 ans au plus, belle, grande, bien faite. Oh, tiens, Bernard, vois donc si ce n'est pas là tout son portrait. Ah, il est frappant, et à cette seule ressemblance, j'aurais dû deviner que vous êtes sa fille. Allons, demain matin, pas plus tard que demain matin, nous irons la voir ensemble. Quelle sera sa joie, et combien j'éprouve de plaisir à reconnaître ce qu'elle a fait pour moi en lui rendant sa fille. Jeannette questionna beaucoup la bonne Bernard, qui lui apprit seulement que son père était autrefois un militaire distingué. Quant aux infortunes qui avaient traversé sa vie, la femme Bernard les aisait. C'était, disait-elle, le secret de Madame Déricourt. Elle seule avait le droit de le révéler. « Ai-je des frères, des sœurs ?» demanda Jeannette. « Point du tout, mademoiselle. Vous êtes fille unique et vous serez bien riche un jour. » « Si je le suis, bonne et sensible femme, vous ne ferez plus, j'espère, un métier aussi peu lucratif. » Jeannette passa une nuit inquiète, agitée. Elle fit des rêves sinistres. Il lui sembla même que sa bonne amie Cécile était tourmentée, l'appelait à son secours et lui reprochait de faire son malheur par une démarche inconsidérée. Jeannette se réveilla triste, les yeux baignés de larmes, et son cœur battit violemment en pensant au moment prochain qui allait la réunir à sa mère, à une grande dame, étrangère pour elle jusqu'à ce jour. La femme Bernard la fit déjeuner, et, s'apercevant de son trouble, elle fit tous ses efforts pour la rassurer, pour lui donner du courage. Bernard se rendit ensuite chez Madame Déricourt pour savoir si elle était visible. Il trouva cette dame lisant une lettre qui paraissait lui faire beaucoup de plaisir. Bernard saisit ce moment pour la prévenir sur le bonheur inespéré que le ciel lui envoyait. Il lui apprit que sa femme avait retrouvé Jeannette et que tous deux allaient venir se jeter dans ses bras. Rien n'égala l'allégresse de Madame Déricourt que son impatience de voir, d'embrasser sa fille. Bernard revint chez lui et Jeannette, sûre enfin de la bonne réception qu'on allait lui faire, suivit la bonne Thérèse qui la présenta à sa bienfaitrice. « Est-il bien vrai ? » s'écrie Madame d'Héricourt en apercevant Jeannette. « Est-ce là cet enfant du malheur ? Êtes-vous ma fille, Jeannette, et ne me berce-t-on pas d'une vaine illusion ?»« Madame, ce papier déchiré, trouvé près de moi ?»« Oui, ce papier, je le reconnais. J'en ai l'autre moitié, je viens de la retrouver. C'est bien cela, en les rassemblant, on y lit. » Cet enfant s'appelle Jeanne-Victoire d'Héricourt, elle a été baptisée le jour d'hier, mais sa naissance a comblé les malheurs de son père. Si vous plaignez la cruelle destinée qui le force à s'en défaire, n'accusez ni son cœur, ni son indifférence pour sa mère. La fatalité qui a poursuivi ces infortunés se lassera peut-être de les persécuter. Un jour, on se présentera aux enfants trouvés, où l'on est prié de garder ce précieux dépôt qu'on ira reconnaître. Pour ces deux lignes en bas, ajouta Madame d'Héricourt, passant, ayez pitié de l'enfance abandonnée, elles sont de la main de Ferrand, de ce domestique infidèle qui... Mais ne pensons qu'au bonheur de te revoir, ma fille. Comme elle est grande, belle, elle me ressemble. N'est-ce pas, Thérèse, qu'elle me ressemble ? C'est ce que je lui ai dit, madame, répondit Thérèse. Elle est tout votre portrait, et cette preuve suffirait seule pour ne pas douter de sa naissance. La voilà donc enfin, après 20 années de privation. Voilà cette fille de l'homme que la fatalité a poursuivie jusqu'à la mort. Pauvre Félix, tu es mort sans avoir joui du bonheur d'embrasser ta fille. Que ne peux-tu sortir de la tombe pour partager la douce ivresse de ta veuve inconsolable ? « Madame, appelle-moi ta mère, Jeannette, que ce nom si doux frappe pour la première fois l'oreille de celle qui t'a donné le jour. Je crois n'avoir rien en moi qui t'en impose. Tu dois être libre de m'exprimer ta tendresse, comme je le suis de te serrer dans mes bras. » Jeannette répondit aux tendres effusions de cette bonne dame, et soudain, pour récompenser Thérèse et son mari du zèle qu'ils avaient mis à lui rendre sa fille, Madame d'Héricourt exigea qu'ils quittassent tous les deux leur état. Bernard fut retenu pour être concierge de la maison et Thérèse entra au service de Jeannette, qu'on n'appela plus que Mademoiselle d'Héricourt. Pour moi, qui suis son historien, je me plairais encore à lui donner, pendant quelque temps, son premier nom, sous lequel elle nous a déjà bien intéressés. Jeannette donc, enchantée de retrouver une mère tendre et qui lui paraissait si empressée à combler ses vœux, Jeannette bénit sa destinée et, dès ce même jour, elle écrivit à sa chère Cécile l'heureux changement qui venait de s'opérer dans sa situation.